La Bible, le livre de Dieu à cœur ouvert. J'ai amené quelques amis avec moi ce matin qui vont vous parler de leur Bible. Alors, je cède la place.
J'ai une petite Bible. Elle est écrite en petits caractères et la loupe ne suffit pas. Donc, il faut que je prenne les jumelles. Oh, je ne lis pas la Bible.
Dans ma famille, on a une belle Bible, une magnifique Bible. Tellement précieuse, tellement de valeur, qu'elle est dans un coin d'une étagère et on ne la lit pas. Elle pourrait perdre de la valeur si on l'ouvre. Je ne lis pas la Bible.
Moi aussi j'ai une Bible. Ma Bible est aussi sur notre étagère. Et comme ça, quand les gens viennent à la maison, ils voient la Sainte Bible. Mais vous savez, je ne l'enlève jamais de l'étagère. Il y a un mot qui rime avec étagère. Ma Bible est poussière. Je ne lis jamais ma Bible.
J'en ai qu'une, hein. Mais elle est grande. Elle est très grande. Et elle est même tellement grande qu'elle est lourde. Elle est même très lourde. Trop lourd. Vous voyez? C'est trop lourd. Bref, elle a ma Bible. Et le problème, c'est que si je veux la sortir et si je veux la lire, il faut que je m'entraîne un petit peu physiquement tous les matins. Et donc, comme vous pouvez voir, je lis pas ma Bible.
Vous savez quoi? Moi, je suis passé à la vitesse supérieure. Vous voyez comment elle galère avec sa Bible, c'est tellement lourde. Moi, maintenant, je suis passé à la technologie. Maintenant, sur mon téléphone, j'ai la Bible. Et vous voyez, regardez, j'ai tous les livres. Ancien Testament, là je vais là, je fais Nouveau Testament. C'est génial. Bon, mais vous savez, j'ai tellement de choses à faire dans la vie. Bon, je lis un psaume une fois par semaine, mais voilà. En fait, j'ai une application, mais je m'en sers pas.
Comme vous voyez, moi aussi, j'ai une Bible. Bon, elle est un peu abîmée, il y a la couverture qui part. Elle n'est pas en bon état. Mais il y a un chrétien d'un certain âge qui m'a dit un jour qu'une Bible qui n'est pas en bonne santé, qui n'est pas en bon état, eh ben, elle appartient souvent à quelqu'un, à un chrétien, dans la vie spirituelle, elle est en bon état. Donc moi, je lis ma Bible. Et vous?
Voilà. Quelle était votre Bible? Nous allons lire quelques versets ce matin, parce que le thème ce matin, c'est Jésus est la Bible. Jésus est sa Bible, ou Jésus est la Bible. Et je vous invite à trouver trois versets bibliques. D'abord une promesse, ensuite un reproche, et ensuite une exhortation. La promesse, c'est dans Matthieu 5, verset 18. Matthieu 5, 18. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ou dans une autre version, même si le ciel et la terre passent, ma parole restera éternellement. C'est une promesse. Et la preuve, c'est que nous avons toujours la Bible avec nous, bien que cela fasse 2000 ans depuis que Jésus a prononcé ces paroles. Le deuxième texte, c'est dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, c'est encore Jésus qui parle. Marc 12, 24. Un reproche. Jésus leur dit, « Voilà pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et puis, une exhortation, Jean 5, 39. Jean 5, 39. Il s'agit d'une exhortation pour nous, mais à l'époque, quand Jésus a dit ces paroles aux chefs religieux, il s'agissait plutôt d'un reproche, d'une réprimande. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les responsables spirituels lisaient la Bible, mais ils ne voulaient pas croire la Bible. C'est pour ça que je dis que c'était un reproche pour eux, mais pour nous, au lieu de dire « vous sondez les Écritures », on peut enlever le mot « vous » et juste dire « Jésus nous dit « sondez les Écritures ». Lisez les Écritures. Étudiez les Écritures, car elles parlent de Jésus. Les Écritures. Jésus et la Bible. J'ai deux choses à dire au sujet de Jésus et la Bible. La première chose, c'est tout simplement Jésus connaissait la Bible. Vous allez me dire, mais David, c'est une vérité de la palisse. Mais il faut le dire et il faut le répéter. Jésus connaissait la Bible. Tout au long de son ministère, il parlait de sa Bible, de l'Ancien Testament. Tout au long de son ministère, il citait la Bible. Tout au long de son ministère, il faisait allusion à la Bible. Combien de fois nous voyons la phrase « Il est écrit » sortir de la bouche de Jésus. Nous savons que dans Luc 4 et Matthieu 4, lorsqu'il y a la tentation de Jésus, il répète trois fois « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Il aimait citer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas de ce moment quand il dit « Il est écrit ». Lorsqu'il y a la purification du temple, quand il chasse les marchands du temple, Jésus dit « Il est écrit ». La maison de mon Père sera une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais pas seulement Jésus a-t-il dit, il est écrit, mais parfois, surtout dans Matthieu 5, 6 et 7, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Et puis il cite un texte de l'Ancien Testament. Jésus citait la parole de Dieu, il faisait allusion à la parole de Dieu, parce qu'il voulait renvoyer ses auditeurs au texte biblique, pour qu'ils voient que Jésus ne disait pas n'importe quoi, que Jésus était en plein accord avec les textes de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez certainement que lorsqu'il avait 12 ans, Jésus était au temple de Jérusalem, il posait quelques questions aux chefs religieux, mais il répondait à leurs questions. Le chef religieux posait des questions à Jésus quand il était un enfant de 12 ans, parce qu'il connaissait les Écritures. Vous savez, on pourrait dire, mais c'est comme si, aujourd'hui, dans notre église, un enfant de 12 ans, qui a 12 ans aujourd'hui? Sergio, tu as quel âge? Ruben, 11 ans, bon, tu as presque 12 ans. 11, 12 ans, toi tu as quel âge? 11 ans, presque 12 ans. C'est comme si un de ces trois garçons, ou quelqu'un d'autre, convoquer les anciens de notre église pour dire « Alors les frères, quelles sont vos questions théologiques ?» Alors les frères, quelles sont les doctrines que vous avez du mal à comprendre? Alors les frères, quels sont les versets bibliques que vous avez du mal à saisir? Ça revient à ça. Donc si un jour, ces trois gars ou d'autres gars ou filles convoquent les anciens, tenez-vous prêts à avoir des réponses à toutes vos questions. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus connaissait la Bible depuis la petite enfance. C'est un thème que j'ai évoqué il y a quelques semaines lors d'un culte, donc je ne vais pas y revenir. Mais ce que nous devons savoir, nous, en 2014, c'est que la Bible de Jésus était un livre avec 39 livres. Son Ancien Testament avait 39 livres, le premier étant la Genèse, le dernier étant Matthieu, non, l'Apocalypse, Malachie. 39 livres dans sa Bible. Et dans sa Bible, les 39 livres se divisent en catégories. 5 livres de la loi, 12 livres historiques, 5 livres poétiques, 17 livres prophétiques, et en tout, si mes calculs sont bons, ça fait 39. 5, 12, 5 et 17. Est-ce que ça fait 39? Je sais qu'il y a quelques profs de maths parmi nous, donc je tremble un peu en parlant des calculs. Mais sa Bible, 39 livres. Notre Ancien Testament, 39 livres. Cela m'amène à parler des livres apocryphes, ou les livres deutérocanoniques. Est-ce que vous avez entendu parler de ces deux termes? Les deux termes décrivent la même chose. Les livres apocryphes ont été écrits par des Juifs dont la plupart vivaient avant la naissance de Jésus-Christ. Certains de ces écrits concernent la période entre 400 ans avant Jésus-Christ et la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire depuis la rédaction du livre de Malachie jusqu'à ce que Jésus naisse à Bethléem, en l'an, on va dire, l'an zéro pour ne pas compliquer les choses. Pendant 400 ans, nous n'avons aucun écrit dans l'Ancien Testament, mais il y a eu quelques écrits pendant cette période et aussi quelques années plus tard. Alors, on peut dire, mais ces livres apocryphes ne faisaient pas partie de la Bible de Jésus. Ces livres apocryphes, on en parle aujourd'hui parce que dans les Bibles des éditions catholiques, les livres apocryphes ou deutérocanoniques, c'est la même chose, sont inclus, mélangés au milieu des Bibles pleinement inspirées du Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que ces livres, ne sont pas dans nos Bibles? Pourquoi ces livres apocryphes ne sont-ils pas dans la Bible de Jésus? Il faut poser la question. Eh bien, premièrement, parce que ces livres, il y en a 15 en tout, dont l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas et d'autres, eh bien, ces livres contiennent des considérations éthiques douteuses, des légendes fantaisistes et des doctrines qui contredisent les Écritures. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Jésus n'a jamais cité ces livres. Les apôtres n'ont jamais cité ces livres dans leurs écrits, dans leurs discours, dans leurs prédications. Ces livres n'étaient pas dans leur Bible. Troisièmement, les pères de l'Église, c'est-à-dire les disciples des disciples de Jésus, les chefs spirituels du deuxième siècle, on va dire, pour eux, les livres apocryphes qu'ils connaissaient n'étaient pas inspirés du Saint-Esprit. Donc, ils ne les ont jamais considérés dignes de foi. Et la dernière raison, il est écrit dans Romains 3, 2, c'est aux Juifs que la parole de Dieu a été confiée. Alors, sachez que les livres apocryphes font partie des Bibles des maisons d'édition catholiques depuis le début du XVIe siècle. Parce que, à ce moment-là, il y a eu le Concile de Trente, qui était un peu une contre-réforme, contre la réforme protestante, et le pape et les évêques ont décidé d'inclure ces livres dans leur Bible. on peut se dire, mais de quel droit les non-juifs au VIIe siècle avaient-ils d'inclure des livres dans la Bible quand la Bible était déjà complète et en entier depuis 16 siècles? Bien sûr, ils n'avaient aucun droit. Donc, nous n'avons pas les livres apocryphes dans nos Bibles, même si vous achetez une Bible en français courant, même à la Maison de la Bible ou à la CLC, vérifiez bien, parce que dans certaines Bibles en français courant, il y a les apocryphes. Donc, si vous allez offrir une Bible ou acheter une Bible pour vous, en français courant, vérifiez qu'il n'y a pas les livres apocryphes deutérocanoniques dans votre Bible que vous allez acheter ou que vous allez offrir. Alors, j'arrête de parler des apocryphes, des livres deutérocanoniques, mais sachez que Jésus connaissait la Bible. Ça, c'est une chose sûre et certaine. La deuxième chose que je voulais dire ce matin, c'est que Jésus croyait la Bible. Pour lui, ce qu'il lisait était vrai. Il croyait en l'authenticité des récits de sa Bible. Alors, il est intéressant de voir combien de fois Jésus fait allusion aux personnages dans l'Ancien Testament. Pour Jésus, les personnages mentionnés dans l'Ancien Testament ont réellement existé. Il parle d'Abraham dans Jean 8 comme un personnage qui a vraiment existé. Il parle de Moïse en Jean 3, David en Matthieu 12, Salomon en Luc 11. Ces gens-là ont vraiment existé. Il parle d'Isaïe comme étant un prophète de l'Éternel en Marc 7. Il parle de Lot. Il parle de la femme de Lot dans Luc 17 comme étant vraiment des personnages historiques. À tel point qu'il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ça mérite toute une réflexion. Pourquoi est-ce qu'on doit se souvenir de la femme de Lot? On ne connaît même pas son nom. Mais on doit se souvenir de la femme de Lot pour plusieurs raisons. Élie et Élisée sont mentionnés dans Luc 4, parce que Jésus savait, c'était des prophètes en Israël, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il confirme l'existence de Jacob, le fils de... C'est le fils de qui déjà? Le fils d'Isaac. Oui, j'ai sauté une génération. Le fils d'Isaac. Il confirme l'existence de Balaam et de Barak. Non pas. Hein? Notre Barak national, Obama. Mais il confirme l'existence de Balaam et de Barak dans Apocalypse 2. Il parle de Jézabel dans Apocalypse 2. Pour Jésus, ces personnages ont vraiment existé. Mais les personnages, Jésus confirme l'existence, mais Jésus a confirmé aussi que certains événements ont vraiment eu lieu. Pour lui, l'Ancien Testament était vrai, véridique et authentique. Jésus parle du premier mariage dans la Bible entre Adam et Ève. Jésus parle de la visite de la reine de Saba chez Salomon. Jésus parle de Jonas. Et il confirme que l'histoire de Jonas n'était pas inventée par le folklore israélite, mais pour Jésus, Jonas a vraiment existé, et son livre, qui porte son nom dans l'Ancien Testament, n'était pas un conte de fées. Jésus parle de l'arche de Noé. Pour Jésus, Noé a vraiment existé. Le monde a vraiment été enseveli sous l'eau. Il parle de Noé, en disant qu'à l'époque de Noé, eh bien, cette époque-là va ressembler à l'époque avant que je revienne. Et aussi, ça mérite une certaine réflexion. Il parle du buisson ardent de Moïse. Jésus parle aussi de la destruction de Sodome et de Gomorre. Il parle de la guérison de Naaman, le chef de l'armée syrienne. Il parle de la veuve de Sarepta dans Luc 4. Il parle de l'incrédulité et de la rébellion des Juifs pendant la traversée du désert. Jésus, sans cesse, fait allusion à des événements historiques pour dire « ça s'est passé exactement comme ça ». Pour lui, il n'avait aucun doute. Il parle aussi des martyrs dans l'Ancien Testament. Il parle du premier, Abel. Il parle du dernier, Zacharie. Il parle de tous les prophètes qui ont été rejetés par le peuple. Parce que le peuple voulait des messages qui chatouillaient les oreilles. Et les prophètes voulaient annoncer des messages qui allaient droit au cœur. Il dit, les prophètes ont été rejetés, lapidés, tués par le peuple. Jésus savait que tout cela était véridique. Donc on peut dire que les discours de Jésus sont truffés de références aux personnages de l'Ancien Testament et aussi aux événements de l'Ancien Testament. Jésus savait en plus que, rien que sa vie, il est en train d'accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Presque la première fois qu'il prend la parole en public lors d'un culte, il lit un texte dans Ésaïe, il ferme la Bible, ou il déroule, ou il roule le rouleau, on va dire, et il dit, ce texte s'accomplit devant vous aujourd'hui. Il savait qui il était. Il savait qu'il était en train d'accomplir des prophéties. D'ailleurs, les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le savaient aussi. C'est pour ça que souvent les évangélistes disent, Jésus a fait ceci afin que s'accomplisse la prophétie de tel ou tel prophète. Jésus a dit ailleurs, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Matthieu 5, 17. Accomplir la loi, ça nous permet de comprendre une partie ou en partie une des dernières paroles de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Il savait qu'il était venu pour accomplir les prophéties le concernant dans l'Ancien Testament. Donc Jésus connaissait la Bible, il croyait la Bible. Pour lui, c'était vrai. Alors, quel serait le souhait ou le commandement de Jésus pour nous, chrétiens, en 2014? Eh bien, tout simplement, Jésus veut que nous connaissions la Bible. Jésus veut que nous croyions la Bible, que nous sachions que la Bible est digne de notre confiance. Pour citer Jésus encore, il a dit dans Jean 15, « Demeurez en ma parole et que mes paroles demeurent en vous. » Connaître la Bible. Est-ce que nous connaissons bien la Bible? Est-ce que nous demeurons dans la Bible? Est-ce que la Bible demeure en nous? Il y a quelques semaines, nous avons lu un verset, je crois, deux reprises le jeudi soir, dans le psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le psalmiste n'a pas dit « Je serre ta parole sur mon cœur ou contre mon cœur, mais dans mon cœur. » Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, si vous voulez mettre la Bible dans votre cœur, il y a quatre moyens pour le faire. Deux yeux, deux oreilles. Lire, écouter. Et à force de lire, à force d'écouter, Dieu écrit avec une encre indélébile des textes bibliques sur notre cœur. Et au moment opportun, Dieu peut nous rappeler ces textes bibliques. Même si on ne les a pas appris de façon intentionnelle, mais à force de lire, à force d'écouter, à force de méditer, Dieu écrit des choses sur notre cœur pour notre bien. Alors nous avons besoin de connaître la Bible, de mieux connaître la Bible. Et nous avons besoin de croire à la puissance de la parole de Dieu. Paul dit en Romains 1, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Quand on lit la parole, faisons confiance à Dieu de nous parler. Quand on cite la parole, faisons confiance à Dieu de parler aux gens. Même si, comme disait Amélie tout à l'heure, il faut des années. Il y a un auteur assez connu dans le monde évangélique qui s'appelait Arthur Pink, P-I-N-K. Plusieurs de ses livres sont traduits en français. Et Arthur Pink était un jeune rebelle, élevé chez des chrétiens. Et depuis sa petite enfance, son père lui citait un verset biblique chaque fois qu'il allait au lit. Il citait ou il lisait un verset. Et puis, quand il était ado, ça l'agaçait énormément, Arthur, parce qu'il ne voulait pas toujours écouter un verset biblique. Et parfois, les versets bibliques étaient un peu vraiment hors contexte. En tout cas, tous les soirs, quand il allait au lit, dans les années 1920 et 30, son père disait, tiens, avant d'aller au lit, un verset pour toi. C'était peut-être pas la chose de faire. Mais en tout cas, le père a persisté. Il a signé. Et il a fait ça pendant des années. Et au début de ses études à la fac, un soir, il monte au lit et son père a dit « Oh, mon petit, un verset pour toi. » Et il était en colère, Arthur. Mais il a écouté, bah, il a entendu. Hein? Il n'a pas écouté, mais il a entendu le verset quand il est monté au lit. Et quand il est arrivé dans sa chambre, ce verset a commencé à travailler son cœur. Il a passé la nuit à réfléchir, à pleurer sur ses péchés, à se repentir et à demander pardon. À cause de ce verset-là, il s'est converti, il s'est mis à fond dans le service du Seigneur et il a médité la parole, il a enseigné la parole pendant des années. Tout parce que ce verset a transpercé son cœur. La parole de Dieu est comparée à une épée qui transperce les cœurs. Et c'était le cas d'Arthur Pink. Je pense à quelqu'un d'autre qui m'a dit, un évangéliste qui était chez nous une fois, et qui m'a dit, tu sais David, un jour j'ai prêché dans une église, et quelqu'un à la fin du culte vient me dire, je veux me convertir. Et l'évangéliste dit, ah mais c'est formidable, qu'est-ce que j'ai dit qui vous a parlé? Et la personne dit, oh non, tout ce que tu dis, j'ai rien compris. Mais derrière vous, il y avait un verset biblique. Et ce verset biblique, j'ai pensé ça pendant tout le message. Et je me suis dit, il faut que je me donne à Dieu. Un verset biblique. Un prédicateur dont personne ne comprend grand-chose. Est-ce que ça arrive? Je ne vous demande pas de répondre ce matin. Je pense à Tass Sada, qui était terroriste dans l'équipe de sniper de Yasser Arafat. Il aimait beaucoup tuer des juifs de sang froid en Palestine, en Israël. Tass Sada est parti aux États-Unis et il a mené sa vie comme il voulait. Et à l'âge de 43 ans, il s'est rendu compte, ma vie, quelle bagarre. C'est le désastre. Et une vie d'infidélité envers sa femme, une vie de toutes sortes de péchés. Et il était serveur dans le restaurant et il a rencontré un chrétien. Et ce chrétien dit, mais Charles, il dit, Tass, viens chez moi. Donc Tass va chez lui. Il a ouvert un café, Tass, et le café s'appelait café à demi-tasse, en anglais en plus, mais aux États-Unis, il s'appelait T-A-A-S, Tass. Donc Tass va chez ce chrétien, et Tass savait, ma vie, oh, j'en ai honte, et le chrétien commence à lui parler de sa conversion, et que Tass a besoin de se convertir. Et Tass a dit, moi, je suis musulman, palestinien. Fier de l'être. J'étais le chauffeur pendant un temps de Yasser Arafat. Yasser Arafat, il est mon Dieu. Et tu me dis que je dois me convertir. Et le chrétien lui dit, tu dois aimer un juif. Alors là, Tass a failli le frapper. Mais il dit, le juif que tu dois aimer a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Sur ce verset, Tass a commencé à pleurer. Il se mit à genoux. Il commence à trembler. Et ce verset était une épée pour son cœur. Et il s'est rendu compte, ce juif, Jésus, je dois l'aimer. Et il a demandé pardon. Il a remercié Jésus d'être mort sur la croix pour ses péchés. Sa vie a été radicalement transformée. Et aujourd'hui, il a une œuvre caritative pour aider les Palestiniens et les Juifs dans toutes sortes de besoins. Il habite la bande de Gaza. Alors, si vous voyez ça à la télé un jour, vous dites, Seigneur, je veux que tu bénisses Tass et son ministère et sa famille. Un verset. Il était farouchement opposé à Dieu et aux Juifs. Et il s'est converti, ce terroriste palestinien. Je termine avec un dernier exemple. En Alabama, aux États-Unis, il y a une pierre tombale. Et sur cette pierre tombale, il est écrit les mots suivants. Luke Short, le nom du défunt, décédé à l'âge de 106 ans, converti à l'âge de 103 ans. Et puis, en petit caractère, gravé dans la pierre, converti dans son jardin, lorsque Dieu lui a rappelé un texte biblique d'une prédication 85 ans auparavant. Il a fallu 85 ans pour que Luc, à 103 ans, plie le genou. Son prédicateur avait cité un verset et ça a suffi. Alors je termine. Je vous encourage à connaître la parole de Dieu. Je vous encourage à croire. Même les choses que vous avez du mal à comprendre, tout ce qui est dans la parole de Dieu. Si nous connaissons, si nous croyons, ça nous permettra de croître dans la connaissance et dans la grâce. Cela nous permettra de servir le Seigneur et d'aimer le Seigneur de plus en plus. Connaissance, confiance, croissance. Quel mot d'ordre? Connaissance, confiance, croissance en Christ. Que Dieu nous accorde cela. Amen.